Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur le JT Mode. Bienvenue. Merci d'être là. Ça va être super. On est là ensemble de 19h à 21h et on va se présenter tranquillement. Sarah, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Bien sûr, et bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah alias Itsaru. Vous me voyez souvent chez Mademoiselle en train de stream d'autres contenus plus dans le gaming. Je suis à côté de cela étudiante en management de la mode et du luxe. À côté, je suis créatrice de contenu pour Twitch, YouTube et Instagram et TikTok. Et également créatrice de mode en prêt-à-porter de luxe pour hommes, donc de ma propre marque. Voilà.
Ok. Et toi, Ruby, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Ouais. Donc moi je m'appelle Ruby Pigeon, j'ai 24 ans, j'ai ma marque de vêtements Upcyclé et je suis créatrice de contenu également sur YouTube et Instagram et je suis consultante en marketing aussi.
Ok, ça fait beaucoup de choses dans ton sac. Ouais. Et toi Alice?
Alors moi je m'appelle Alice Léger, je suis spécialiste au département mode et accessoires de luxe dans la maison de vente aux enchères Arcurial, une maison de vente française.
Ok, super. Bah, quel panel luxueux que j'ai autour de moi. Non, mais il n'y a pas que le luxe dans la vie, vous inquiétez pas. On va parler de plein de choses différentes pour tous les budgets. Et ça, c'est assez étrange. J'ai l'impression qu'il y a une caméra qui ne fonctionne pas. C'est toujours au moment où on passe en live que ça arrive, mais c'est pas grave. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est ensemble de 19h à 21h. Merci beaucoup d'être là. Si vous avez des questions, des remarques, on vous lit dans le chat. Donc, allez-y, commentez. On va parler d'abord de la Fashion Week, un petit tour de l'actualité, après on va interviewer Ruby et après on va interviewer Alice pour tout savoir, tout comprendre de leur métier, de leur carrière, de leurs aspirations, etc. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez interagir dans le chat, ça va être super. Du coup, est-ce que vous avez un peu suivi la Fashion Week? Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Est-ce que ça vous passionne? Est-ce que vous en foutez?
Si on suit, c'est quand même important. Enfin, moi, en tout cas, dans mon métier, c'est très important de suivre tout ce qui se passe. Donc, j'ai suivi ça avec attention.
D'accord. Est-ce que tu as une capitale préférée?
Paris.
Ok, évidemment. Et toi, Ruby, est-ce qu'il y a une capitale que tu préfères?
Mais moi, même la Fashion Week, j'en ai de moins en moins à faire, en fait. Et j'ai réalisé que j'étais pas forcément. En fait, je pensais justement avec mon métier que, pareil, je devais un peu suivre et tout. Et en fait, je pense pas forcément. Parce que je suis plus en train de créer que genre de regarder aussi ce qui se passe. Bien évidemment, ça m'inspire et tout, mais je vais pas genre tout suivre et tout ne m'intéresse pas. Et en plus, je me sens vite genre submergée d'informations. Et je trouve qu'il y en a eu beaucoup cette année. Donc non, je l'ai plutôt repoussé moi la Fashion Week cette année. Et genre j'ai lâché des non, je peux pas venir à, genre dès que je pouvais. Et j'étais pas invitée à 12 000 défilés du tout, mais genre beaucoup de cocktails, beaucoup de trucs mondains qui en vrai m'intéressent de moins en moins et qui me fatiguent beaucoup. Donc après au niveau genre créatif, il y a eu des trucs qui m'ont intéressé que j'ai vu de loin, mais pas tant que ça. Et si j'ai une ville préférée, je pense en général j'aime bien Londres, mais là du coup il y avait pas avec la reine Elisabeth, RIP.
RIP Elisabeth. On t'embrasse. Et toi, Sarah, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse?
Oui. Je pense aussi, c'est surtout le fait que je sois étudiante dans la mode que on nous pousse énormément à s'intéresser à la Fashion Week, bah, surtout de Paris vu que bah on est actuellement sur Paris. Et ce qui fait qu'en fait automatiquement on suit les actualités, on suit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, surtout maintenant qu'en plus de cela les archives sont plus accessibles et bah ce qui fait que on se renseigne plus facilement. Et oui, on est submergé d'informations et là on a pas mal de choses à discuter là-dessus pour l'actualité et j'ai vraiment hâte de faire un petit peu le tour des actus de ce qui s'est passé dans cette Fashion Week, surtout de Paris, parce que je pense que c'est celle où ça a le plus parlé, ouais. Personnellement.
Il s'est passé beaucoup de choses à Paris, oui. Et le retour du plan large est arrivé. Voilà, en toute discrétion bien sûr, par magie. Mais du coup, est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué à New York, un créateur, une créatrice ou un événement? Non.
À New York en particulier? Ouais. Bah non, avec ce qui s'est passé à Paris, je trouve que New York est passé à la trappe, quoi.
Ok, on va pas parler de New York, y compris, tout le monde s'en fout. Après, il y avait Londres. Donc, attendez, un petit point contexte. La Fashion Week, c'est quoi? Là, cette saison, c'était le printemps-été 2023 qui était présenté. Donc, on défile toujours 6 mois avant l'arrivée dans les boutiques. C'est pour ça que ça défile maintenant pour dans 6 mois. Là, on va parler du Big Four. Donc, ce qu'on surnomme le Big Four, c'est les 4 capitales de la mode occidentale. Ça va être New York, ensuite Londres, ensuite Milan, ensuite Paris. Du coup, New York a défilé en premier. Il s'est pas passé grand-chose, j'avoue.
Vous retenez quelque chose de New York?
Est-ce qu'on comprend quelque chose de New York?
Si vous retenez quelque chose de New York? En vrai, je me rappelle même plus sa date, j'ai l'impression.
Franchement, ça dépend, mais c'est vrai que c'est le... Je pense que c'est la Fashion Week la moins médiatisée comparée aux
autres. Je me rappelle là, de la vidéo de Vogue qu'ils ont sorti de New York. Genre, ça, ça avait l'air fun, il y avait des stands et tout, un peu de marque.
Mais après, c'est passé à la trappe, en vrai, avec ce qui s'est passé
après. Franchement,
ouais. Avec Londres, tellement... ça a été vite...
C'est ça. Ouais. Mais après, je trouvais que quand même, le délire, il était un peu spécial. J'avais l'impression d'être un petit peu dans du Victoria's Secret, un petit peu, mais...
Genre plein de chanteurs.
Ouais, c'est ça qui défile.
En voilà, n'importe quelle marque, n'importe quel stand, des goodies et tout.
Ouais, c'est ça. Non, mais en ce moment, j'ai l'impression que beaucoup de défilés de mode invitent des artistes, des stars pour défiler pour leur marque. Et bah, moi, je trouve que c'est un peu spécial comme système. En ce moment, ils font tout.
Genre, chacun son industrie.
En ce moment, ils font de plus en plus ça. On a plein de marques qui commencent à vouloir inviter des artistes, des gros stars de cinéma, de musique ou quoi que ce soit pour en fait défiler pour leur marque. Et moi, je sais pas, je trouve ça, on dirait une petite tendance en vrai.
Mais je trouve que ça fait longtemps que c'est comme ça. Enfin, c'était sous-jacent déjà avec le truc de genre des actrices qui sont tout le temps ambassadrices de parfums, des marques et tout, tu vois. Ça va de soi que d'un coup, bah, en fait, on a besoin de plus de views, on a besoin de plus de buzz, bah, on met une autre personne qui est un peu in du moment.
C'est vrai.
Dans
et
lot,
essayer
quoi.
De, aussi, j'ai remarqué qu'il y a aussi ce petit truc de vouloir scripter un petit peu des scènes iconiques. Essayer d'avoir des scènes un peu iconiques.
Bah, c'est pour que ça
pour,
fasse...
le buzz.
Le buzz.
Que ça soit repris sur les réseaux.
Exactement.
Bah, c'est que de l'image, en fait. On est que sur qu'est-ce qu'il va faire.
La création, elle passe après, en fait.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est comment va performer telle personne.
Comment on va faire le buzz.
Comment elle va défiler. Comment elle va marcher.
Voilà. Même les plus grands talents de New York, en tout cas mes créateurs et créatrices préférés, ont même pas défilé à New York. Je pense à Tom Brown, je pense à aussi à Sarah Olsen avec The Row. Enfin, tout le monde déserte New York en fait. Toi, est-ce qu'il y a un talent que t'aimes bien à New York, Alice ou...
J'aime bien The Row.
Ouais.
Franchement, je trouve que c'est vachement beau ce qu'ils font et puis c'est toujours assez presque conceptuel.
Ouais. Est-ce que c'est un peu le Hermès new-yorkais ou pas du tout?
Pas encore.
Pas encore, il y a du chemin à faire. Ok, d'accord. Bah, ensuite, à Londres, qu'est-ce qui s'est passé? À part la mort d'Elisabeth II, justement, qui a failli annuler la Fashion Week.
Mais ça n'a pas un peu annulé même
Vite fait, en vrai. Hein.
Bah, effectivement, le British Fashion... Enfin, le British Fashion of... Non... Le BFC, British Fashion of Council, ça veut rien dire, mais en tout cas, la Fédération britannique de la mode a tenté d'annuler la Fashion Week, mais pas totalement, parce que ça coûte beaucoup trop cher, en fait, d'annuler un défilé, voire plusieurs défilés, voire toutes les festivités autour de la mode, parce que ça rapporte beaucoup d'argent aussi à une capitale comme Londres, et toutes les capitales de la mode en général. Et du coup, c'était très compliqué, donc ils ont repoussé par rapport au jour des funérailles de la reine Elisabeth II, les événements, donc les défilés n'ont pas eu lieu pendant les funérailles. Et ce qui fait que c'était encore plus concentré pour les autres jours. Il y avait certains qui ont dû défiler plus tôt que prévu. Donc, 2 jours en moins pour un créateur, c'est beaucoup trop. C'est là où tout se termine.
Ouais.
Et 2 jours après, bah, ça fait aussi qu'on se retrouve en face de quelqu'un qui est plus gros que nous. Par exemple, les jeunes créateurs qui se retrouvent le même jour qu'une grosse maison, bah, c'est un peu galère, quoi, pour attirer l'attention médiatique. Est-ce qu'il y a un créateur ou une créatrice qui vous a marqué à Londres?
Je sais pas, Burberry.
Burberry, t'as bien aimé?
Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé leur défilé.
Ouais.
Et c'était un peu... Mais ça se voyait qu'il y avait cette atmosphère de... le fait que la reine d'Angleterre est décédée. Ça veut pas trop non plus...
Il y a eu beaucoup d'hommages.
Et voilà, c'est aussi une sorte d'hommage. Ils veulent pas trop que leur contenu soit énormément médiatisé, plus grand que le décès de la reine d'Angleterre.
Par respect, genre.
Par respect, c'est ça. En fait, ça se ressentait en vrai.
Ouais.
Ouais, c'était assez saisissant. Il y avait, tu parlais d'hommage, Sarah, à l'instant. Et ben, il y avait aussi J.W. Anderson, créateur nord-irlandais, avec sa marque propre qui a défilé. Et le dernier look, il me semble que c'était un t-shirt en hommage à la reine d'Angleterre. Et c'était assez marquant de voir ça, sachant qu'il y a aussi, du coup, Burberry, en fait, ils ont d'abord annulé leur défilé. Il y a Raf Simons qui a aussi annulé son défilé. Il devait défiler à Londres et il a repoussé à plus tard son défilé. Donc, ça n'a pas encore eu lieu. Mais sinon, c'était assez morne, quoi, l'ambiance à Londres. Les after-parties ont été annulées. Il n'y avait pas le droit de faire de festivités pendant cette période de deuil national. Donc, c'était assez catastrophique, quoi.
C'est
comme
marrant de décider qu'il n'y ait justement pas de fête parce qu'il y a une mort. Enfin, moi, j'aurais pensé que justement, peut-être ça fait du bien aux gens.
Je pense que c'est une question de culture, je ne sais pas, peut-être aussi.
C'est vraiment, ça arrivait pile à ce moment-là.
Ouais.
Ça aurait été indécent, je pense, pour les Anglais.
Ouais. Mais je crois que c'est une sorte de culture en vrai, parce que je sais pas si ça serait comme ça partout.
Bah, est-ce que si nous on avait un président qui meurt, je sais pas si on arrêterait tout comme ça, tu vois.
Ouais, je pense pas.
Je sais pas, mais je pense au Brésil. Moi, je suis franco-brésilienne et j'ai l'impression qu'au Brésil, on ferait la teuf.
Okay. Je sais pas. Est-ce que c'est pas lié à la personne qui est justement
Fort, vraiment, ouais. Alors, je pense en France aussi.
En France aussi, en vrai. Hein. Je pense pas que. Après, je pense que c'est vraiment une question de culture et qui fait que. Bah...
Mais c'est normal, moi ça m'étonne pas du tout de l'Angleterre que ça se soit passé comme ça en vrai.
Ouais, en vrai, moi aussi.
Ouais. Là, je vous parlais tout à l'heure du t-shirt qui a clôturé le défilé de Jonathan Anderson pour sa marque JW Anderson. Her Majesty the Queen, JW Anderson, thank you. Et en fait, c'était une reproduction de JW Anderson, thank you. Et en fait, c'était une reproduction de JW Anderson.
Il y a un écho. D'accord.
Ouais, de ton. Comment on appelle ça?
De mon ordinateur, ouais. Bon, désolé, vous, ça vous impacte pas, j'imagine. Mais petit souci technique, mais rien de grave. Et ce que je voulais vous dire, c'est oui, il y a eu certains hommages au sein même des défilés à la reine d'Angleterre qui venait de décéder, effectivement. Donc, c'était un moment très particulier pour la création. Mais voilà, du coup, c'était Londres. On va passer à Milan, c'était assez rapide.
Ouais.
Je pensais qu'on aurait plus de choses à dire. Mais à Milan, est-ce qu'il y a un défilé qui vous a marqué? Tout à l'heure, tu me parlais en off, Alice, de Gucci.
Bah Gucci, c'était là, c'était pas à Paris?
C'était à Milan. C'était à Milan,
ah oui, ils ont clôturé. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le défilé de Gucci. J'ai trouvé la scène incroyable. Et cette idée avec que des jumeaux.
Ah oui, c'était Gucci ça, j'avais même pas fait le lien.
Et même en dehors de l'aspect événement, de l'aspect show, j'ai trouvé les pièces très très belles. Tout ce qui défilait, je trouvais ça hyper coloré, très très beau.
Bah ouais, c'était assez impressionnant. Désolé, je crois que en fait on vient d'être enfermé.
Ne
vous inquiétez pas, on va pouvoir retirer l'alarme calmement après le live. C'est le live où rien n'est prévu. Parce qu'en fait, pour rien vous cacher, le live devait avoir lieu mardi soir et on a dû le décaler pour d'obscures raisons ce soir. Mais on est ravis d'être là parmi vous, évidemment. Je pense que les gens qui cohabitent avec nous dans les bureaux ont oublié qu'on faisait un live ce soir, alors même que la lumière est allumée,
c'est
écrit partout, mais bon, qu'importe. Et du coup, là, on a entendu l'alarme se déclencher, mais tout va bien, je peux la désactiver à distance, vous inquiétez pas. Enfin, si vous inquiétez pour nous, vous pouvez nous envoyer des Uber Eats ou des sushis, je sais pas. Dites-nous, on pourra passer commande après si jamais.
Voilà, c'est ça.
Si les gens dans le chat veulent nous envoyer à manger, pour éviter qu'on meure enfermé ici. En tout cas, ouais, Gucci a fait défiler plein de jumeaux. Attendez, je vais vous montrer mon PC. Ah bah non, je peux pas vous montrer mon PC parce qu'il y a un retour de son, donc c'est compliqué.
Si tu peux,
mais je vous mets
enlève le couple de son sur ton PC, peut-être.
Alors, normalement, le son est coupé. Oh. C'est ça qui est drôle. Ouais, il est coupé. Mais donc, on va réessayer, on va voir s'il y a un écho. Vous me dites dans le chat s'il y a un écho à nouveau. On va voir s'il y a un écho, vous me dites dans le chat. Ouais, il y a clairement un écho. Bon, tant pis. Mais en tout cas, dans le chat, vous envoyez le lien de l'article, donc vous pouvez le voir. Mais c'était assez impressionnant. Donc Gucci, la maison Gucci, qui est dirigée artistiquement par Alessandro Michele depuis quelques années maintenant, a casté une soixantaine de paires de jumeaux. Donc je crois qu'il y avait 68 paires de jumeaux castés à travers le monde.
Puis des vrais jumeaux.
Identiques qui ont défilé.
C'est fou.
En fait, là, je vous fais le reveal avant de vous raconter le début. En fait, en gros, il y avait l'assistante qui voyait le défilé, voyait qu'une seule paire de jumeaux. Un seul jumeau de chaque côté. En gros, c'est archi compliqué à expliquer sans les images. Voilà, en fait, il y a un défilé, un podium tout en longueur, séparé par un mur. Donc, les gens ne savaient pas que de l'autre côté, un autre jumeau défilait avec exactement le même look. Et du coup, en fait, de chaque côté du mur, il y avait un jumeau. Et à la fin du défilé, pour le final, le mur est tombé, révélant le fait qu'ils étaient deux jumeaux identiques de chaque côté. Donc, de chaque côté du podium, on pouvait voir exactement le même look, porté par un jumeau différent. Et donc 68 passages avec 68 paires de jumeaux, c'était hyper impressionnant. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Sarah? Est-ce que t'as suivi ce défilé?
Moi, je trouve que c'est très spectaculaire. Et en fait aussi, moi, quand je vois ce genre de spectacle, enfin au niveau des défilés, je me pose plein de questions au niveau de l'organisation. Comment ça devait être super compliqué d'avoir exactement des jumeaux qui se ressemblent, enfin vraiment. Et qui se ressemblent, quoi. Moi, en fait, tout de suite, je pense à l'organisation. Comment ils ont pu organiser, comment ça a été galère, le fait qu'il fallait trouver des paires de jumeaux dans le monde entier, etc. Enfin, pour moi, c'est ça. À chaque fois que je me pose cette question-là, comment ça a pu être organisé, je suis super curieuse. Après, je ne sais pas si... Il va en faire une vidéo, mais je pense que ça peut être un super bon contenu à montrer pour montrer en fait comment ça a été organisé, en fait, le fait que le casting, etc., comment ça s'est passé, comme on fait pas mal de marques au niveau de leur casting chez les mannequins. Et je pense que là, ça peut être vraiment, mais vraiment intéressant chez Gucci.
Effectivement, je crois que maintenant j'ai réglé le souci.
Ouais.
Effectivement, j'aimerais trop qu'il y ait un making-of pour savoir comment est-ce qu'ils ont casté tous ces mannequins. Moi aussi, je suis intriguée, Sarah. Donc là, je vous parlais tout à l'heure du podium scindé en deux. Donc le mur que vous voyez de photos derrière, c'était la séparation en question. C'était un défilé très inspiré des années 80 parce que Alessandro Michele s'est inspiré de sa propre enfance. Lui-même est le fils d'une femme qui avait une jumelle, une vraie jumelle. Il a été élevé par sa mère et sa sœur jumelle les 10 premières années de sa vie, enfin jusqu'à ses 7 ans, pardon. Et à 7 ans, bah, sa tante est morte, donc la jumelle de sa mère est morte. On dirait un jeu de Cluedo, je sais pas quoi. Mais et du coup, il s'est rendu compte que bah il avait pas deux mamans, quoi. Il avait une seule maman et l'autre c'était sa tante. Et ça lui a fait un gros traumatisme qu'il a voulu réinterpréter comme ça à travers ce défilé. Donc là, on s'approche du final. Les spectateurs n'avaient toujours pas conscience du fait qu'il y avait tout un autre défilé qui avait lieu de l'autre côté du mur.
C'est vrai qu'elles sont chouettes, les fringues, j'avais même pas fait attention.
Ouais.
Et voilà.
Et les accessoires aussi, il y a eu beaucoup de nouveautés.
Ouais, les bijoux étaient incroyables. I am not a
clone, a duplicate. Et là, c'est tombé, là.
Ouais, là, c'est tombé. Pardon, j'ai avancé pour vous montrer le final parce que ça dure quand même 10 minutes. Un défilé de mode, il faut savoir qu'en moyenne, ça dure entre 10 et 15 minutes. Là, c'était un défilé particulièrement long. 68 passages, c'est énorme. À part dire, personne ne fait ça. Et dire qu'on le suit un peu. Toi, Alice, qu'est-ce que t'as pensé de cette film?
C'est réel.
Tu disais que t'avais adoré. Est-ce qu'il y a des vêtements qui t'ont marqué, des looks? Moi, j'ai bien aimé les pantalons portiers, par exemple.
Ouais, alors moi, du coup, je me suis demandé
oui, acheter en seconde main, c'est-à-dire ouais. Adopt Don't Shop, mais ça n'a rien à voir. Et oui, les sacs, effectivement, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a certains sacs qui ressemblent un peu à des Chanel, mais.
La musique est un peu trop forte.
La musique est un peu trop forte, ok. Je vais essayer de baisser le son. Je pense que si je le baisse ici, peut-être que ça va jouer en votre faveur aussi.
Je sais pas trop ce qu'avait dit.
Ah ouais, peut-être que tu peux te rapprocher du micro, le mettre plus proche de toi, ouais. Et sinon, là, il y a aussi plein de Gremlins, je sais pas si vous voyez.
Oui, oui, j'ai vu ça.
Icône des années 80.
Mmh. Ah bah ouais.
Et il y a aussi un sac qui ressemble beaucoup au Sadal de Dior, mais en fait, Gucci l'a fait avant. Historiquement, si on regarde bien. Et voilà, ce sac-là ressemble un peu au Sadal, bah,
attends,
Gucci l'avait fait avant. Attends, peut-être que je peux faire pause. Voilà, c'est ça.
En fait, c'est au niveau de la fermeture.
Il y a vraiment la fermeture, le rabat en forme de selle de cheval. Merci, Sarah.
Et
effectivement, voilà, donc si quelqu'un veut acheter un sac, peut-être qu'il peut se diriger vers Gucci, je ne sais pas, ou le marché de la seconde main, comme disait Alice. voilà, bah, c'était un défilé hyper impressionnant, ouais. Ce que je peux vous dire
ça,
aussi.
Ça, c'était à Milan?
C'était à Milan. Mm-hmm. C'était précisément, si j'ai bien fait mon travail, je vais retrouver la date rapidement.
C'est pas celui qui a fini le.
Ouais, ça a clôturé la semaine de la mode milanaise. Et c'était justement pile au même moment de l'élection de Meloni, Giorgia Meloni. Du coup, c'est ouais, voilà, c'était deux jours après, on a appris que le parti d'extrême droite en fait était élu en Italie. C'est assez extrême. Et en contestation de ça, Alessandro Michele, le directeur artistique de Gucci, a fait défiler certains looks avec écrit le mot Fiori. Je suis nul en italien. Si quelqu'un est meilleur que moi, c'est toi, Alice, je ne sais pas, mais qui veut dire out, en gros, qu'on pourrait difficilement traduire en français, mais dire qu'on assume ne pas être cis hétéro. C'est un peu la fierté ou être out, quoi. Et c'était hyper intéressant de voir ça parce que c'est quelqu'un qui, l'extrême droite italienne, bien sûr, menace les droits des personnes LGBTI+, en Italie. Mm-hmm. Donc, voilà, Alessandro Michele a voulu se positionner de cette manière-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en Italie? Est-ce que vous avez été marqué par d'autres défilés ou...
Versace, mais pas en bien.
Ah ouais, du mot
Versace,
en plus.
Versace, il y a eu Paris Hilton qui a défilé, je sais pas si vous vous rappelez. Déjà,
enfin, j'ai vraiment rien suivi en fait.
Tant mieux, on est là pour se rattraper, t'inquiète.
Ouais, je suis ravie.
Elle a marché d'une manière à la Paris Hilton, et puis non, j'ai détesté les couleurs. C'était violet, c'était rose, c'était Barbie au possible. Et...
Ah bah, t'aimes pas maman en général?
Bah, je suis pas hyper fan, mais t'as quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Mais là, franchement, moi, j'ai été très déçue.
On va regarder la marque de Paris Hilton, si vous le voulez bien. Mais toi, t'as bien aimé Sarah?
Franchement, ça m'étonne pas d'elle. C'est, en fait, j'étais pas étonnée qu'elle défile de cette manière-là. Et c'est Paris Hilton, quoi. Enfin, voilà. Et comme j'avais dit précédemment, c'est qu'en ce moment, il y a cette tendance de vouloir... faire défiler certaines célébrités qu'on s'attend pas, hein. Franchement, on s'attend pas que Paris Hilton ait défile pour faire ça, je vais pas vous mentir. Et en fait, il y a ce truc de, il y a l'ADN de la marque, mais il y a aussi l'ADN de la célébrité en question quand elle défile. Voilà, il y a ce truc de, on reconnaît que voilà, c'est cette personne qui défile pour cette marque-là.
Mais c'est pour ça qu'ils l'ont pris aussi, je pense.
Exactement. Après, il y a aussi ce côté que Paris Hilton a, son univers, son style. C'est vrai que je trouve que ça, c'est adéquat avec l'univers de Versace, en vrai. Par rapport à...
Ouais, le bling.
Voilà, le bling-bling, le côté Barbie.
Après, ils sont dans l'air du temps avec le film Barbie qui va sortir.
Oui. Le rose. En ce moment, le Barbie, ça y va. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de célébrités qui font des petits clins d'œil à Barbie. Mm. Que ça soit au niveau de la couleur rose aussi.
Ouais, Valentino à rose.
Ouais, Valentino à fond, effectivement.
Valentino à fond,
et c'est un rose Schiaparelli, hein, le rose shocking aussi. Ouais. Donc là, il y a l'expo Schiaparelli que je vous recommande chaudement aussi aux arts décoratifs en ce moment jusqu'à janvier 2023, si je dis pas de bêtises. Elsa Schiaparelli, qui est une créatrice qui mérite d'être davantage remémorée, je pense, qui était contemporaine de Gabrielle Chanel. Aujourd'hui, la maison est dirigée par Daniel Schiaparelli, Daniel Roseberry, pardon. Daniel Schiaparelli. Non, il n'a aucun lien de parenté avec Elsa. Mais voilà. Donc, oui, Versace, c'était très Barbie-core, hein. On en parle beaucoup sur TikTok de cette esthétique Barbie avec du rose partout et une hyper-féminité revendiquée. Même, on parle de bimbo-core aussi.
Et que je tiens aussi à rappeler par rapport à la couleur rose, parce que c'était avant-hier, je suis allée voir l'exposition de Elsa Schiaparelli, et en fait, il y avait une guide, etc., et je lui avais dit, oui, mais ce rose shocking, en ce moment, Valentino est en train de le faire. Et elle m'a clairement dit, non, Valentino, ils avaient déjà leur rose, leur couleur rose, c'était déjà leur ADN, bien avant, ça n'a rien à voir, etc. Alors que moi, je trouve que franchement... Le rose que Valentino fait actuellement, il ressemble énormément au rose shocking de Elsa Schiaparelli. Enfin, moi, je trouve que le rose est trop... Non, c'est pas le rose qu'on a l'habitude de voir de chez Valentino, quoi.
Après, c'est extrêmement complexe de s'approprier...
Une couleur.
Ouais. Avoir l'autorité sur une couleur, c'est un casse-tête juridique insoluble, quoi.
Hermès l'a fait.
Ouais, c'est-à-dire, ouais, vas-y, développe.
Bah, le orange Hermès, il est quand même très, très caractéristique.
Ouais.
Après, c'est pas iconique. Tant... oui, c'est pas forcément juridique, mais c'est vraiment des marques qui s'approprient des couleurs... et qui en font leur identité.
Effectivement, d'ailleurs, c'est assez drôle de remarquer que Louis Vuitton a changé ses packagings pour un orange très proche de celui d'Hermès, mais différent, juste assez différent. Il y a très peu de marques qui ont réussi à faire ça. On parle aussi du Tiffany Blue pour désigner la couleur bleue ciel un peu turquoise du joaillier Tiffany. Leur boîte, hyper identifiable, justement grâce à ce bleu-là, bah, on le retrouve dans très peu en fait chez d'autres maisons et c'est devenu une marque de fabrique. Il y a aussi Bottega Veneta en ce moment. On parle beaucoup du vert Kelly ou du Bottega Green.
Il est super
C'est un vert hyper frappant et qui est aujourd'hui très identifié par rapport à Bottega Veneta, alors qu'en fait, ils l'ont pas inventé. Enfin, c'est une couleur, toutes les couleurs existent dans la nature. Et ce Bottega Green ou vert Kelly, eh ben, il est... Moi, c'est un truc que j'associe beaucoup au virtuel, en fait, au fond vert, les écrans pour faire des incrustations. Et je trouve qu'il est à la fois extrêmement naturel, à la fois extrêmement artificiel. Et je le trouve vraiment fascinant.
Intéressant. J'avais jamais analysé le truc comme ça.
Et voilà. Et du coup, en tout cas, est-ce qu'il y a une autre couleur comme ça que vous associez à une maison?
Miu Miu rose, un peu baby rose. En velours surtout. C'est presque à une texture aussi. Je me rappelle de ma mère, elle avait beaucoup de lunettes de soleil Miu Miu. Ouais. Et la boîte, elle était trop genre... Je sais pas, il se passait un truc sensoriel avec, genre.
Ok.
C'est pas sans aller trop loin, mais genre, tu sais, c'est quand même ce petit velours rose et tout. Il me rappelle ma maman hein, avec le tag Miu Miu dessus.
Ouais, je vois très bien, ouais. Mmh. C'est, ouais, du velours, comme tu dis, presque du sat... Enfin, ouais, je vois très bien.
Ouais, il brille, tu vois, c'est...
Je sais pas, un rose poudré adorable,
et
ouais.
Tout, je kiffais trop.
Ah, il y a des gens dans le chat qui réagissent aussi pour nous dire qu'ils sont allés voir l'expo ce qui est à Paris aussi,
ah ouais.
Qu'ils ont adoré. Vous l'avez vu ?
Non, faut que j'y aille. Je devais y aller avec ma grand-mère.
J'y vais dimanche.
Ok.
Ah,
c'est trop cool. Toi, avec ta grand-mère ?
Bah, je devais y aller avec ma grand-mère et okay. Finalement, elle était fatiguée.
D'accord, ok.
Mamie, quoi.
Bah ouais, les mamies.
On lui en veut pas.
Elles sont imprévisibles.
Elles sont imprévisibles, okay. C'est mamie.
Bah, après Milan, à moins qu'il y ait un autre défilé qui vous ait marqué, que vous voulez qu'on regarde... Non.
Non.
Bah, du coup, on peut passer à Paris parce que tout le monde n'attend que ça.
Le
évidemment.
Bordel. Ah,
le bordel, ok, carrément.
Voilà.
Est-ce qu'il y a un défilé qui t'a marqué, Sarah? Pardon, peut-être Ruby. Vas-y, avale tranquillement ta gorge
ouais.
D'eau.
Ouais, il y a. Enfin, le premier défilé auquel je pense, moi, c'est Copernic, évidemment, ah. Parce que c'est celui qui a presque terminé, il me semble. Enfin, il y avait la Hadid qui est arrivée à moitié à poil sur l'espèce de podium. Ils l'ont spray. Enfin, ça nous a rappelé Alexander McQueen. Donc ouais, c'est franchement s'il y a bien un show qui dont je me rappelle, c'est celui-là, mais pas pour les fringues, pour l'événement.
Et toi, Alice, est-ce que t'as ce défilé t'a marqué?
Ouais, il m'a marqué, mais effectivement pas pour les fringues.
Ouais.
Juste
ouais,
la performance quoi. C'est.
Bah, c'est ça qui a été le plus relayé en fait.
C'était assez fou.
Ouais. Il y avait plein de vidéos, même des gens qui n'étaient même pas dans le domaine de la mode en parlaient. Ça passait à la télé, enfin tout. Tous ces petits, cette grosse médiatisation sur autour de cette, de cette robe qui se fait via des sprays. Enfin, je sais même pas comment on peut expliquer.
Ouais,
comment
je sais toujours pas comment expliquer.
Par contre, moi, quand j'ai vu ça, moi, tout de suite la question écolo m'est venue à l'esprit. Comment ça se passe? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça?
Oui, est-ce d'accord, que tu peux le remettre?
C'est nouvelle, voilà. Ouais. Est-ce que c'est ok? C'est une nouvelle découverte. On fabrique d'une certaine manière, mais est-ce que ça vaut le coup?
Ouais. Est-ce que c'est pas juste des déchets à usage unique que tu
exactement.
Crées?
Exactement. Est-ce que, voilà, quand on les voyait, les messieurs en train de faire leur mélange, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Ouais.
Est-ce que c'est pas très, voilà, naturellement, pour la nature, est-ce que c'est...
Mais tu penses que ça va être commercialisé? On sait si c'est commercialisé, ça?
Alors, du coup, j'ai juste peur qu'on se fasse ban par Twitch si je montre... on voit pas de tétons, donc normalement, c'est OK.
Oui, normalement.
alors, du coup, contexte. Copernic, c'est une jeune marque française qui est dirigée par Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer. Donc, c'est un couple à la ville et au studio. Et là, c'est le final du défilé qu'on est en train de voir en image. C'est Bella Hadid, une mannequin assez connue aujourd'hui, qui clôture le défilé et elle est sprayée en direct par une technologie à base de polymères. Donc effectivement, c'est du plastique,
du plastique
sont dilués dans un solvant, dans les bonbonnes qu'on n'aperçoit pas vraiment là. Et en fait, ces polymères s'agglutinent sur le corps, les solvants s'évaporent et ne reste que la matière donc qui ressemble à du plastique, qui a un toucher un peu caoutchouteux comme on peut le voir là à ce moment-là précis de la vidéo. Et là, une styliste de Copernic vient faire les finitions sur la robe. Juste avant, c'était l'inventeur de la technologie qui s'appelle le Fabricane, qui était en train de sprayer la robe avec l'un de ses assistants. Et donc, pour répondre à la question de la recyclabilité, du coup, en fait, la robe, une fois que vous l'avez portée, bah, t'es obligé de la découper pour la retirer. Donc, effectivement, c'est pas la... Enfin, celle-ci en particulier.
Ouais.
Après, on peut imaginer d'autres choses, mais là, c'est intéressant de voir que c'est une robe qui est... On peut pas faire plus sur mesure que ça, puisque c'est sprayé sur sa peau. Mais pour la retirer, elle sera obligée de la couper. Et en fait, pour la remettre, bah, elle pourra pas, à moins de faire une soudure, quoi. Du coup, c'est périlleux, mais c'est recyclable. Ce plastique-là est recyclable, effectivement. Et c'est pas une technologie nouvelle. En fait, Copernic n'a pas inventé cette technologie. Ils ont fait appel au spécialiste en la matière, qui s'appelle Manel Torres. Et
c'est une
voilà.
Boîte allemande, ça?
Comment?
C'était une boîte allemande ou italienne, je sais
c'est,
plus.
C'est un Italien, il me semble, qui fait ça depuis Londres. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais effectivement, c'est assez impressionnant, ouais.
Je me demande comment ils viennent avec ces idées. Genre, comment tu vas trouver le gars qui fait ça? Il faut avoir des contacts de ouf, quoi.
Ouais, ouais, il faut avoir des contacts de ouf. Mais après, c'est un mec qui a fait ça il y a 20 ans déjà.
Ah ouais?
Ouais, en tout cas, il a commencé à développer la technologie il y a 20 ans et je crois qu'il l'a breveté quelques années après, donc vers 2010, quoi. Et en gros, la caméra plan large, vraiment, elle a surchauffé, je pense. Mais bref, en gros, oui, voilà, c'est assez impressionnant. Donc, c'est Manel Torres, T-O-R-R-E-S. La technologie s'appelle Fabrican. Et ça n'a pas vocation, par Copernic, en tout cas, à être commercialisé de sitôt. Mais vu le buzz que ça a fait, on peut imaginer que pour des commandes spéciales, pour des célébrités, par exemple, ça puisse être fait.
Puis, c'est, comme tu dis, il n'y a pas plus sur mesure que ça, quoi.
Ouais.
Donc là, un truc qui te va comme un gant, littéralement,
côté,
tu l'as, quoi.
Ouais, il y a aussi ce côté pour le show, le fait que c'est impressionnant, le fait que personne s'y attendait, le fait que, voilà, cette nouvelle technologie est incroyable, parce que, voilà, à la base, c'est des trucs, c'est des particules qui n'ont pas l'air d'être des matières, une matière solide à la base, sur un corps comme un tissu. Et en fait, ça l'est directement sur le corps, et oui, pour... pour un show, ça peut être bien. Mais moi, je pense après, pour, je pense pas voir ce genre de performance dans des red carpet ou quoi que ce soit. Genre,
Ouais, ou à Dubaï, quoi. Avec un mec qui mange du bœuf en or.
Ouais, enfin voilà.
Un truc un peu genre...
Mais surtout que sur le défilé, il y a eu aussi un sac qui a été d'un kilo d'or.
Oui, il y a eu un sac en or massif,
À Copernic
à Copernic, ouais.
Mais c'est dingue de vouloir mettre deux trucs comme ça énormes alors qu'il y en a clairement un qui va shadow l'autre.
Exactement, ouais. Ça a été complètement éclipsé par cette performance à la fin. C'est leur fameux sac Swipe, qui est la forme qui est très connue chez Copernic.
Mais ils font des éditions limitées un peu, genre il y en a un en vert un peu diablotin là.
Il y en a eu trois comme ça, en vert soufflé, un qui est avec les oreilles, les petites cornes qu'ils font souvent. Donc il y a eu vert soufflé incolore et transparent, un avec du vert un peu fumé et un autre coloré. Je vais essayer de vous montrer le sac en or massif, mais je pense qu'ils ont dû le poster sur leur story à eux.
T'as déjà revendu toi un Copernic?
Je pense pas qu'il y ait besoin. C'est trop jeune, non?
Ça a pas de valeur.
Ouf, pour l'instant.
Oh, wow.
Sur le second marché. Ça n'a pas de valeur. Sur le second marché, ça n'a pas encore de valeur.
Oh, waouh! Ok. Voilà,
en vrai, c'est pas étonnant. Copernic,
oui, bah oui, c'est pas étonnant.
C'est pas des sacs qui coûtent très cher. Entre
ouais, ça a pas une.
Oui, et que ça prenne pas de la valeur.
Avec le temps.
Ça a dû être tellement lourd, ça, à porter.
Ouais, donc ça, c'est le sac 18 carats
de Copernic.
On voit
qu'elle le tient ferme poignet.
J'aurais bien aimé qu'on voit ses biceps en même temps contractés. Oui. Et du coup, en gros, c'est le modèle Swipe de chez Copernic. Ils font effectivement en vert, sinon ils le font en cuir normalement. Et ça coûte dans les 600 euros. C'est une marque contemporaine. Et du coup, ça a pas trop de valeur à la revente, effectivement.
Ouais, mais comme celui en or, je me dis, enfin, je sais pas.
Et après, en fait, il a été refondu juste après. Donc en fait, c'était juste le temps du défilé. C'était regardez ce qu'on sait faire. Allez, salut.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a eu tout un.
Mais d'ailleurs, tu rentres rien dedans, non? Il était fermé.
Tu rentres
c'était
pas dans chose,
sculpture.
Ouais, non, c'est une sculpture. Tu peux pas rentrer quoi que ce soit dedans, dans celui-ci. Après, dans celui en vert, il est vraiment commercialisé.
Oui, oui, oui.
Et tu peux rentrer un gloss, quoi.
Nice.
Littéralement, juste un gloss.
Hyper important.
et voilà. Et du coup, est-ce que vous vous rappelez pas des fringues, donc? Pourquoi?
Non.
À cause de la performance, ça dit bien à quel point les gimmicks peuvent éclipser une collection, quoi.
Il a été très court, non, ce défilé? Enfin, il y avait très peu de silhouettes.
Effectivement, je crois qu'il y a une cinquantaine de silhouettes. Je vais vérifier tout de suite, discrètement. mais ouais, c'était beaucoup de vêtements.
C'était de la soie noire.
Beaucoup de polyester, assez peu de soie.
Enfin, à première,
voilà, effet soie. vous pouvez écouter le podcast Matière Première que je fais sur la question si ça vous intéresse. Mais ouais, c'était beaucoup de hauts seconde peau, des t-shirts et des débardeurs seconde peau près du corps en haut et des baggies en bas, des cargo pants et des parachute pants. Je crois que t'es amatrice de parachute, Ruby.
Moi, je suis amatrice de tout ce qui est large, ouais, j'avoue. Enfin, là, aujourd'hui, non, mais...
et toi, est-ce que t'aimes bien les débardeurs, Alice, et les hauts ajustés ou tu t'en fiches?
Oui.
Ouais, d'accord, ok. Et toi, ça?
Bah, moi... on verra pas avec ça, quoi. Genre, c'est pas possible, quoi.
Et là, vous pouvez voir les passages. Il y avait 40 passages, du coup, enfin 38 passages plus la performance, il me semble. Donc la taille basse, évidemment, qui revient en force cette saison. Il y avait deux mannequins plus size. Le défilé était dédié à toutes les femmes.
Ah oui, c'est vrai que ça, c'était un sujet aussi, je me rappelle. Ouais,
ouais, mais c'est un truc qui m'a marqué, ce fashion month. C'est à quel point il y a un retour des mannequins vraiment taille 34, quoi.
Mais c'est dingue, en fait. Ouais. Ils veulent pas... Genre, il y a eu deux ans, peut-être un peu de ouais et tout, et en fait, tout le monde s'est déchauffé, genre.
Bah ouais, ouais, ouais.
Et, enfin, vois, et puis même, c'était pas ouf déjà à l'époque. T'avais genre une meuf plus size, et plus size, c'était un 40, donc t'es en mode genre, ah ok.
Oui, puis t'en avais qu'une.
Ouais, t'en avais qu'une, genre vraiment, t'as l'impression que ça les faisait trop. C'était trop de taf d'aller caster une meuf qui a une taille comme tout le monde. Mais ouais, Copernic, c'était ça. Et attends, ils ont dit que c'était un défilé pour toutes les femmes.
Ouais, il y avait tout un poème pour dire que c'était pour toutes les femmes.
On s'est tellement senti concernés.
Ouais, c'est ça.
Mais
merci, Copernic.
Mais effectivement, c'est ça qui est assez ironique, c'est qu'en fait, là, il y avait la technologie pour faire une robe sur mesure incroyable. Enfin, après, la robe est un design très, très minimaliste. Hein, donc, tout l'intérêt spectaculaire de la robe réside dans sa conception et pas dans le résultat. Mais c'était l'occasion de faire un truc sur une autre morphologie que ce corps hyper standardisé qu'a Bella Hadid, hein, aussi belle soit-elle. Mais je pense que Bella Hadid a pas de mal à trouver des vêtements à sa taille.
Donc, oui, c'est vrai que...
Oui, clairement.
C'est vraiment assez drôle. Je pense qu'elle rentre facilement dans une taille 34 de Copernic. Mais pourquoi pas l'avoir mise sur une mannequin plus size, par exemple, ou encore une autre morphologie. Quelqu'un qui serait pas mannequin, justement, et ça aurait été incroyable.
Après, il y a l'effet waouh, encore une fois, et Bella Hadid, elle est quand même...
Et Bella Hadid, en ce moment aussi, on va pas se mentir, elle est partout, là.
C'était
partout.
Ça, Fashion Week.
On fait que de parler d'elle, c'est...
Même ouais, ouais, qu'elle a fait énormément de choses.
C'est
quoi.
Ça, ah oui, clairement. Mais c'est pour ça que je me suis dit, il y a aussi ce petit côté stratégique du fait de le faire sur Bella Hadid, parce qu'en ce moment, il y a une hype sur cette mannequin-là.
Ouais.
On la voit partout, on la voit dans plein de communiqués, on la voit dans plein publicités, enfin, on la voit vraiment partout en ce moment.
Ah bah
elle est là, quoi.
Enfin, après, elle était... Que à Paris, il me semble. Enfin, elle n'était pas à New York, elle n'était pas à Londres, elle n'était pas à Milan.
Ah, c'est qu'elle est sur tous les défilés.
Elle était à Milan, peut-être, non ?
Peut-être à Milan, mais je n'ai pas souvenir.
Elle était à Milan, mais je ne sais pas sur quel.
J'ai un doute pour Londres, mais il me semble qu'elle était que à Paris, et du coup, je pense qu'elle avait une exclusivité. Hein, mais il y a plusieurs remarques dans le chat. Il y a l'Audi78 qui nous dit le créateur a dit qu'elle était invendable, ils peuvent la dissoudre et en refaire par contre. Effectivement, donc la robe est recyclable, c'est ce que je disais. C'était vraiment pour le show. Il y a aussi Ron Lilian qui nous dit mais du coup vraiment intéressant sur les questions d'inclusivité vu que par définition ça peut aller à tout le monde. Effectivement, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment un truc qu'on pourrait faire pour n'importe quelle morphologie, et ça c'est intéressant à remarquer. Mais qui peut acheter ça aussi?
Ça c'est une autre question.
Ouais, voilà. Encore une fois, du coup, enfin, quand t'es plus size, tu peux pas forcément.
C'est comme les sur mesure.
Ouais, ouais. Il y a l'Audi78 qui nous dit aussi ça aurait été trop canon sur Isult.
Ouais.
Est-ce que toi, Alice, t'aurais aimé porter cette robe?
Non.
Pourquoi? Trop simple?
Trop moulant. Enfin, je pense qu'elle, enfin, on voyait tout, vraiment tout son corps.
Ouais.
Dans les moindres détails, quoi. Donc, je me serais sentie nue.
Ouais. Je pense que c'est un peu le principe de cette robe, effectivement. Ouais. C'est effet seconde peau.
Faut être à l'aise.
Faut être très à l'aise dans son corps, ouais. Alors que Bella Hadid a dit à maintes et maintes reprises qu'elle souffrait de dysmorphophobie, donc elle se voit déformée, elle est très complexée. Donc c'est toujours assez ironique.
Mais après,
de voir,
quand t'as ça, tu te sais, un jour t'es bien, un jour t'es pas bien. C'est pas genre tout le temps, tu sais pas comment tu te sens, quoi.
Ouais, c'est très compliqué, effectivement.
Ouais. Mais tant mieux pour elle si elle se sent bien aussi parfois.
Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un autre défilé à Paris qui vous a marqué?
L'OEV.
L'OEV?
Ouais, ouais.
Ça, j'ai trouvé hyper poétique. Très, très. Enfin, il y a eu un moment, une silhouette avec un effet pixel. J'ai trouvé ça incroyable.
C'était hyper drôle à voir.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est, en fait, ça faisait des énormes pixels. Je vais vous montrer dans le chat aussi. Du coup, le défilé a été ouvert d'ailleurs par une actrice qu'on peut voir bientôt dans Bones and All de Luca Guadagnino avec Timothée Chalamet. Du coup, l'OEV, c'est une marque qui est dirigée artistiquement par Jonathan Anderson. On en parlait tout à l'heure parce qu'il a défilé à Londres pour J.W. Anderson, sa marque éponyme. Il a repris un motif d'arôme, la fleur arôme. C'était hyper joli, ouais. Parce que cette fleur, en fait, a été reprise en robe sur Zendaya récemment avant le défilé. Du coup, ça avait beaucoup marqué les esprits. Et les pixels dont on parlait tout à l'heure, Alice,
c'est plus vers la fin.
C'est vers la fin. Donc, il y a deux looks comme ça. Ça fait un trompe-l'œil. Non, il me semble que c'est...
C'est une vraie fringue, là.
C'est une vraie fringue, ouais. Et le pantalon aussi, ça. Et c'était déjà visible dans sa collection en son nom propre. Ouais, très métaverse. Interroger la réalité, le virtuel, etc. Il l'a fait aussi chez J.W. Anderson, mais autrement, il avait des robes en forme de clavier géant d'ordinateur avec des souris et tout d'ordinateur. C'était assez dingue.
Oui.
Effectivement, et d'ailleurs, il avait...
Cette fleur-là, je peux pas.
Avec un clitoris sur la robe, je peux pas.
Et toi, tu pourrais, Alice ?
Non, pas spécialement celle-ci.
Et ça, ça
en fait, ça dépend de l'occasion, j'aimerais dire.
En fait, ce qui était bien aussi sur ce défilé, c'est que pour le coup, c'était vraiment place à la création. Enfin, là, on regarde les vêtements. L'endroit était hyper brut. Enfin, je crois qu'il y avait juste l'anthurium qui dépassait.
Exactement. Ah, j'ai
c'était quoi ce
Rome,
design
Anthurium, oui, pardon.
Anthurium, ouais.
Pardon
Aventurium
Anthurium.
Anthurium.
Il y avait aussi les chaussures Anthurium, il me semble. Ouais, là, on les voit.
Ah, waouh.
Il en avait partout.
Ouais, mais c'est, moi,
je crois qu'il y a un gros champ.
En fait, je trouve que ça fait très Simba, quoi.
Bah, après, il y a en effet fausse fleur volontaire, puisque c'est encore interroger le virtuel, le réel...
Chouette,
la reproduction.
Mais ouais, le style pixelisé, etc. Moi, ça me fait penser à un jeu. Ça me fait penser
à Minecraft.
Minecraft,
grave.
Ouais.
Trop bien, Minecraft.
Mais je suis sûre que ça a inspiré de ça. Parce que franchement, c'est le genre de vêtements qu'on peut très, très bien voir dans le jeu et tout. Hein. Genre des skins et tout. Mm. Mais je suis sûre, il y a aussi ce côté stratégique de ressembler un peu aux jeux vidéo et donner l'accessibilité.
Genre NFT un peu.
Voilà, c'est
en
ça.
Terre,
le Web 3 ou je sais pas quoi. moi, je ne comprends rien à ces questions-là. Ouais. Mais comme tu disais, Alice, effectivement, c'est hyper intéressant. On était obligés de se concentrer sur les fringues parce qu'il n'y avait pas de stars hyper connues ou de mannequins vedettes ou quoi. C'était la création pure. Après, Jonathan Anderson a la réputation d'être un créateur un peu en téléo et tout. Bon, je l'adore, j'avoue. Je porte un pantalon de lui, d'ailleurs.
Ah ouais?
mais je montrerai tout à l'heure si vous voulez. Mais il est très semblant. Voilà, c'est portable dans la vraie vie aussi, ce qu'il fait chez Loewe et chez J.W. Anderson. Mais effectivement, oui, c'est un créateur très cérébral, mais je trouve ça accessible en fait. C'est pas tape à l'œil.
Tu projettes plus que.
Et ouais, grave. Plus que d'autres maisons.
Une robe en shit.
Une robe en polymère. recyclable.
Oui.
Mais voilà, et vous dans le chat, est-ce que vous porteriez des vêtements en anthurium ou en pixel? Qu'est-ce que vous préférez? Dites-nous. Si quelqu'un veut faire un sondage dans le chat, je suis preneur aussi. voilà, il y a des gens très très calés dans le chat, Ruby, ne rigole pas, vraiment.
Oh merde.
Qui font des sondages en direct, comme ça,
mais
hyper
non,
rapidement.
Ouais, slash poll.
C'est assez impressionnant, voilà.
Wow.
Est-ce qu'il y a un autre défilé qui vous a marqué à Paris ou ailleurs, hein, mais...
Bon, après, ça malheureusement... Marqué, c'est un grand mot, mais je trouvais ça dommage qu'il y ait une médiatisation dessus par rapport à Kanye West, par rapport à la polémique qu'il y a eu, etc. Et comme par hasard, après, il y a eu des interviews qui sont tombées par rapport à tout ça. Et bah, pour moi, en fait, c'est clairement calculé. Quoi, genre,
Ok, on va remettre le contexte avant de parler des conséquences.
Ouais.
Du coup, celui qu'on connaissait autrefois sous le nom de Kanye West a changé de nomination officielle. Donc maintenant, c'est Ye, Y-E. Il est toujours créateur. Il a toujours sa marque qui s'appelle Yeezy, qui s'écrit désormais YZ. Y. Voilà, du coup, là, il a présenté sa nouvelle collection à Paris, un peu par surprise, donc c'était pas du tout prévu, mais il y avait des rumeurs dans la Fashion Week, dans la Fashion Sphere, on savait qu'il allait défiler. Il a fait un défilé qui a beaucoup fait polémique parce qu'il portait un t-shirt lui-même, White Lives Matter. Il avait aussi invité une commentatrice politique d'extrême droite qui s'appelle Candace Owen, et il a fait défiler aussi, qui portait le même t-shirt. White Lives Matter, et il y a aussi une mannequin qui a défilé avec ce t-shirt là, qui est d'ailleurs mannequin fille de Lauryn Hill et petite fille de Bob Marley, c'est la Marley. Voilà, donc grosse polémique autour de
ce
ouais.
Oh là là.
Voilà, et du coup c'était un peu sa caution racisée qui défile avec le t-shirt, lui-même étant racisé, et la Candace Owen aussi. Bref, et du coup ça pose question parce que non pas parce que les vies des personnes blanches ne compteraient pas, mais parce que c'est un slogan qui est revendiqué par l'extrême droite et le Ku Klux Klan.
Ouais.
Du coup, et la suprématie blanche en fait. Donc des terroristes blancs portent ce t-shirt. Enfin, revendiquent ce slogan-là. Et donc Ye, ou autrefois appelé Kanye West, revendique ce slogan. Ça pose plein de questions. Est-ce que c'est une reprise ironique? Est-ce que c'est un détournement? Est-ce qu'il n'a pas conscience du fait que, en fait, c'est un slogan de l'extrême droite? Plein de questions se posent. En tout cas, tout le monde n'a parlé que de ça. Le reste de la collection, personne ne l'a calculé.
Ouais.
C'était aussi très simple, hein, ça ressemblait beaucoup à du Margiela ou du Rick Owens. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était hyper inquiétant aussi quant à la santé mentale de Ye, en fait, qui est diagnostiquée bipolaire. Hein. Il y a les résultats du sondage qui viennent de tomber, car un sondage a été fait. Et c'est le Pixel qui gagne pour l'instant. Mais pour en revenir à Kanye West, effectivement, il est peut-être en crise, on n'en sait rien. Enfin, on n'est pas ses médecins, il n'y a que ses médecins qui sont au courant. En tout cas, effectivement, sa santé mentale pose question. Kim Kardashian s'est plusieurs fois exprimée à ce sujet-là. C'est son ex-épouse pour dire que, il n'était pas bien en ce moment. C'est inquiétant, ouais.
Enfin, la maladie n'excuse pas tout.
La maladie n'excuse pas tout, effectivement. Ouais, Alice, t'as raison de le rappeler. Il est responsable de ses actes. Et surtout, il est assez bien entouré. Et d'autres personnes auraient pu lui dire, en fait, non, fais pas ça.
Ouais.
Que ce soit le défilé ou le t-shirt ou d'autres actions qu'il a pu commettre. Mmh. Parce que après ce défilé-là, plusieurs personnes se sont exprimées contre ce slogan, notamment Gabriela Carefa Kansan, qui est une journaliste mode du Vogue US, qui est une femme noire grosse, et en fait lui s'est attaqué à elle, son identité raciale et sa grosseur, son surpoids. Il a fait plein d'attaques ad hominem contre elle sur Instagram. Forcément, il est suivi par des millions de personnes, donc ça a provoqué des vagues de cyberharcèlement raciste, grossophobe et sexiste contre elle. Et donc c'est vraiment lamentable. Il s'en est pris à d'autres personnes, surtout des femmes noires, et rarement des hommes noirs qui ont aussi critiqué ce qu'il a fait. Donc vraiment, c'est ciblé, hein, les victimes qu'il choisit. Donc ça pose plein de questions éthiques, en fait. C'est pas juste un t-shirt. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc toi, tu déplores la médiatisation de cette affaire, Sarah ?
Ouais, parce que c'est ça qui a aussi un petit peu... détruit un petit peu le charme de la Fashion Week, de la Paris Fashion Week, sachant qu'en plus, on avait avant ça pas la médiatisation de Copernic, de la robe Copernic, puis après, on a eu ça qui est arrivé, et les gens ont commencé à en parler, à se poser des questions, comme tu dis, mais il y a aussi le fait de se dire, mais jusqu'à où ça peut aller, parce que là, actuellement, il a fait ça, mais il va pas être pénalisé pour tout ça. Enfin, voilà, il va rien avoir. Et jusqu'à où il va aller, en fait? Jusqu'à où ça va aller? On se dit que, ouais, il y aura même sûrement peut-être d'autres créateurs qui vont aussi utiliser certains propos qui sont assez graves et en fait, moralement parlant, pas correct, entre guillemets. Et, enfin... Il y a aussi ce côté malsain de vouloir imposer la politique dans la mode. En fait, que la politique prenne le dessus de la mode. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, j'avais surtout ce pressentiment-là. Et je trouvais ça vraiment dommage parce que, à la base, il vient là, sur Paris, pour défiler, pour montrer sa nouvelle collection. Sachant qu'en plus, il a eu des problèmes avec certaines marques comme Adidas auparavant. Donc, il y a aussi ce côté de, on va essayer de lui donner de la force, on va essayer de voir ce qu'il va proposer. Pour au final, en fait, qu'il nous sort un vieux t-shirt où il y a marqué White Lives Matter. Genre, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, c'est,
après, je pense qu'on peut pas rendre la mode apolitique. Elle est toujours politique, même quand elle fait semblant d'être neutre. Là, vous pouvez voir à l'image, normalement, Candace Owens, qui est une politicienne, enfin, une commentatrice politique, pardon, de droite, et Kanye West, d'extrême droite. Ouais. Oui, effectivement, Alice, t'as raison. Et Kanye West, juste à côté d'elle. Et aussi, tout à l'heure, je vous parlais du rapport de force complètement inégal entre Gabriela Carefa Johnson, qui a dénoncé ce t-shirt de Kanye West, et en fait, elle a subi énormément d'attaques de la part de Kanye West et de tous ses adorateurs. Et pour vous faire une estimation du rapport de force, c'est 280 000 personnes qui suivent Gabriela Carefa Johnson et 18 millions qui suivent Kanye West. Donc ça pèse son poids. Enfin, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé contre elle et d'autres personnes encore. Donc c'est pour ça que... Et oui, et tout à l'heure, je vous disais, d'autres personnes auraient pu lui dire « En fait, là, tu vas trop loin. » Mais ce qui est ironique et... profondément discutable, c'est qu'en fait il y a carrément le gratin de la mode qui était dans l'assistance, donc dans le public, mais il y a aussi le gratin de la mode qui défilait. Il y avait le directeur artistique de Givenchy, par exemple, Matthew Williams, qui défilait pour Kanye West.
Wow.
Il y a aussi la femme de Rick Owens.
Il y a aussi Michel Lamy qui défilait. Il y avait aussi, je vais vous la montrer juste là. Donc là à gauche, vous voyez Michel Lamy qui est l'artiste et compagne de Rick Owens, qui est un créateur. À droite, vous avez Naomi Campbell, et au milieu, vous avez Celle à Marley, qui est la fille de Lauryn Hill et petite fille de Bob Marley, qui est mannequin et qui portait le t-shirt White Lives Matter sur le défilé.
Tu penses qu'ils savaient ce qu'ils allaient porter avant de défiler?
Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, Kanye West, en fait, il a publié plein de stories de manière désordonnée, notamment des échanges qu'il a eu avec Selah Marley pour dire
tu vas porter ça.
Tu vas porter ça. Et en fait, après coup, il y a Selah Marley aussi qui a Kanye West a posté d'autres échanges qui ont lieu après le défilé, dont des messages de Selah Marley qui lui disaient t'inquiète pas, je sais pourquoi on a fait ça, bientôt les gens comprendront et tout. Comme quoi, elle assume ce qu'elle a fait.
Cette conscience. Hein.
Et lui, il a posté ça en story?
Ouais, il a posté plein d'échanges privés, de gens qui lui disent aussi arrête tes conneries, tu vas trop loin, arrête de publier nos échanges privés, tu vas trop loin. Et lui, il continuait à poster et tout. Donc.
Et là, ça y est, il a été banni d'Insta.
Effectivement, il a été banni d'Instagram et de Twitter même. Ah, il a été suspendu, non pas pour ça, pour les vagues de cyberharcèlement, mais pour ses propos antisémites, effectivement. Ça va de plus en plus loin. C'est pour ça que ça pose question.
C'est ça. Mais plusieurs fois, hein, cette personne a été. A tenu des propos problématiques, mais. Comme j'ai dit, c'est que le résultat derrière, c'est que le mec est toujours là, il est toujours présent. On le laisse faire des gros défilés comme ça avec des gros invités.
Après, il le paye lui-même.
Oui, c'est
celui qui les finance.
Ah bah, en partie.
Il
n'y
avait pas cette histoire aussi, du coup, qui devait être financée par LVMH à la base.
En fait, c'est ce qu'il dit, ça. Il dit qu'il y a des années.
Bernard Arnault
voulait lui proposer quelque chose.
Il prétend ça, on n'en sait rien.
Oui, c'est vrai qu'on n'en sait rien. Il s'est pas prononcé d'ailleurs, Bernard Arnault.
Non, il refuse de commenter, ouais. Wow. Refuse de commenter, mais il était présent dans la salle. Alexandre Arnault, il me semble, ouais. Pardon. Effectivement.
C'est vrai que c'est touchy, là. Tu sens qu'il faut faire attention à ce que tu dis, t'as genre. Ok.
Ouais, ouais, t'as raison, Alice. Merci pour ta précision. Il y avait un fils Arnaud qui était présent dans le défilé. Mais ils ont pas commenté.
Il s'en est pris aussi à Bernard Arnault.
Ouais.
Oui. Son fils. Sur les réseaux sociaux.
Non, non, Kanye West.
Tu n'en finis pas, tu sais, genre le fils qui embrouille son père.
Ouais, non, c'est hyper compliqué. Il s'en est pris à lui pour dire, ouais, t'as annulé le contrat qu'on avait
signé. Ouais, du coup, c'est ça que je disais.
Il avait pas eu le temps d'avoir des contrats.
À la base, LVMH devait. Enfin, non, en tout cas, c'est ce qu'il dit.
Yé prétend qu'il y a une dizaine d'années, Bernard Arnault l'a contacté en lui disant, on devrait faire un truc ensemble. Ouais. Et en fait, ça a été annulé au dernier moment sans jamais d'explication. D'après hier.
Mais ça, c'est ce qu'on. Ouais. Ce qui est de l'autre vie.
Voilà. Et on n'en sait pas plus. sachant qu'au début, les premiers défilés de Kanye West à Paris, il y a des années, en fait, c'était hyper moqué quoi, par la critique de mode. Ouais. Donc, c'est compliqué.
Artistiquement, c'est pas.
C'est spécial.
Voilà.
Ah, j'ai envie d'avoir vos vrais avis là.
Vous êtes vraiment diplomate.
C'est spécial, je veux dire. C'est particulier.
Il y a Mathias87 qui nous demande de qui on parle. On parle de Ye, alias Kanye West. Il y a Lodi78 qui nous disait, vu les penchants politiques de Kanye West, on doute que ce soit ironique. Mmh. Effectivement, il s'est plusieurs fois exprimé en faveur de Donald Trump. Il a aussi porté des casquettes Make America Great Again. Il a aussi dit qu'il se présenterait, machin. Il a aussi dit que l'esclavage était un choix. Enfin, voilà, il a des casseroles.
C'est ça.
Il y a l'Audi 78 qui ajoute, je cite, « Il commence à être pénalisé quand même. De plus en plus de marques avec qui il collabore veulent annuler leur contrat. » Effectivement, on parlait d'Adidas tout à l'heure, donc c'est, tout ça est en discussion. Gap aussi, ça a été annulé il y a quelques mois déjà, avant ce défilé polémique, mais parce qu'il a un comportement erratique depuis des mois. Donc, c'est extrêmement compliqué. On espère qu'il va recevoir l'aide dont il a besoin, manifestement. Voilà. Ah, c'est pas les Kanye West, je pense. Ouais. Si vous avez quelque chose à ajouter.
Sur Kanye West, non.
Bon courage.
Bon courage. La santé mentale compte.
C'est ça.
Voilà. Prenez soin de vous et de des vôtres. J'ai envie de dire. Ok. sur ces entrechats, sans transition aucune, on peut parler d'autre chose. On peut parler comme vous voulez. Dans le chat, dites-nous. Est-ce que vous préférez qu'on parle de Patagonia? Est-ce que vous voulez qu'on parle de... du gouvernement français qui envisage 5 mesures pour des vêtements plus durables et contre le gaspillage, donc des mesures choc. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Des mesures vraiment cosmétiques, on en reparlera. Ou alors Kiabi qui s'essaye à la location de vêtements.
Tout ça un peu. Il y en a de plus en plus.
Ouais. De plus en plus de marques, ouais.
Mais il me semble qu'il y a, enfin, pas que de la fringue, mais Ikea aussi commence à faire. Mais bon, va prendre des meubles de seconde main Ikea. Enfin, ils sont déjà forcément.
Un peu utilisé,
bah, et surtout,
pas en très bon état.
Ouais, un meuble Ikea qui date, il est pas genre, t'es pas en mode genre, petit archive Ikea. Enfin, en vrai, il y en a, si, à Skip, au niveau design, c'est intéressant un peu. Bah, non, ouais. Ikea, mais c'est ça qu'il me semble qu'Ikea a fait un truc de seconde main.
Ouais.
La semaine du design, Ikea avait fait un showroom, genre.
Après, là, c'est de la location. Kiabi veut s'essayer à un service de location, mais je vous mets ça dans le chat si ça vous intéresse de creuser.
Ouais, je suis curieuse de savoir comment ils font ça. Genre alors, sous abonnement.
Exactement, sous abonnement. Ouais. En résumé, du coup, à partir de, pour 20 euros par mois, tu peux louer 5 articles.
Ok.
Sans durée de rendu. Donc tu les rends quand tu veux, tu peux les garder un an, deux ans, trois
ah
ans,
bon
un mois. Il n'y a pas de durée.
C'est vraiment que ça leur coûte pas cher à faire alors.
Bah non, mais c'est que ça leur. Enfin, tu payes 20 euros tous les mois.
Ah ok, ouais, tu t'engages quand même à payer son
abonnement.
Non, non, tu peux l'interrompre quand tu veux, ton abonnement.
Ok.
Donc tu payes 20 euros pour un mois de location.
Ok.
Tous les... Si tu veux garder ton jean, tu loues 5 articles, admettons 5 jeans, et tu veux les garder pendant un an, bah tu les gardes pendant un an et tu payes 20 euros par mois.
Moi, je trouve ça pas mal. Enfin, je pense surtout aux stylistes qui doivent parfois genre acheter tu vois, des débardeurs ou avoir des trucs comme ça que tu achètes en masse pour du jour au lendemain pour un. Pour un shooting, ouais. Genre, bon, mais après, parce qu'on est styliste, donc là, vraiment, ça concerne...
Moi, je pense plutôt aux enfants 5. Qui grandissent trop vite.
Oui, c'est vrai,
oui,
pardon.
Ça, ça va
du tout maternel, ça me vient pas du tout...
Et je me dis, je serais parent d'enfant, je me dirais,
non,
bah, plutôt que d'acheter des vêtements tous les ans, parce qu'ils grandissent tout le temps,
c'est vrai.
Je louerais des fringues et je change de taille chaque année, quoi.
C'est ouf que j'ai pas pensé à ça.
Chaque mois, parce que ça grandit très vite pour...
Ouais, pour des
bébés. Les bébés, tout ça, ouais.
Qui habitent, c'est très grand public, il y a des vêtements grande taille, il y a des vêtements pour les bébés, il y a des vêtements pour tout le monde. C'est à tout petit prix et ça intéresse plein de familles modestes, mais pas que. Et c'est intéressant pour des familles d'enfants en bas âge, par exemple, effectivement, qui grandissent beaucoup trop vite.
C'est
quoi.
Clair. Ils font des trucs pour les bébés, je connais pas du tout.
Ouais, ils font des trucs pour les bébés, ouais. Je crois que c'est à partir de 2 mois, il me semble.
Ah ouais, non, ouais, dans
bon,
ce cas,
après, en dessous, t'as pas besoin de vêtements. Mais t'es emmailloté, je ne sais pas.
Ouais, je sais plus. Plus.
Et tu peux louer davantage que 5 articles. C'est du coup 20 euros les 5 articles, 30 euros les 10, 40 euros les 15 et 50 euros les 20 pièces que tu
Moi,
peux garder.
Moi, je trouve ça bien.
Toi, tu trouves ça bien, Alice ? T'aimerais louer des vêtements ?
Louer des vêtements, je trouve ça bien. Que Kiabi fasse ça, je trouve ça, d'un point de vue écologique, un peu hypocrite de leur part. Il ferait bien de mettre un peu plus de moyens pour améliorer leur production. Parce qu'à mon avis, bah, c'est de la fast
fashion.
Non,
mais c'est sûr.
Donc je trouve que c'est, d'un point de vue marketing, je trouve que c'est vraiment hypocrite au possible. Et moi, c'est ça qui me dérange, en fait. Mettez des moyens pour améliorer vos vêtements, votre production, plutôt que faire des systèmes de location. En tout cas, pour Kiabi. Après, le système de location en soi, oui, je trouve que c'est une bonne idée. Mais, encore une fois, écologiquement, il y a quand même une question sur le transport, sur...
Totalement.
Voilà. Mais du coup, est-ce qu'écologiquement, justement, il n'y aura pas moins de transport vu que ça serait que... Enfin, avec le temps, peut-être qu'il y aura plus de location et ils ont moins besoin de reproduire, tu vois.
Après, le truc, c'est que déjà, il faut transporter les vêtements. Enfin, il y a des Kiabi dans plein de villes. Du coup, tu peux aller les chercher toi-même au Kiabi ou les ramener toi-même au Kiabi. Mais déjà, tu y vas comment ? Sans doute en voiture, enfin, j'en sais rien. Mais surtout, en fait, les marques de vêtements qui proposent ce genre de service, elles doivent reconditionner les vêtements avant de les remettre en location. Et ce reconditionnement, bah, c'est souvent du nettoyage à sec ou du nettoyage en machine, effectivement. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de déchets, de pollution. Ça a une empreinte carbone,
ça
forcément, tu
beaucoup,
vois.
Ouais.
Et le reconditionnement en nettoyage à sec, c'est énorme. Enfin, ça pollue énormément. Et la logistique que ça demande, ouais, c'est colossal. Parce qu'il faut renvoyer tout ça en reconditionnement. Il n'y a pas forcément des stations de reconditionnement dans chaque boutique qui habille, quoi. Mais tout ça, c'est en phase de test. Et c'est drôle que tu parles de cet impact-là. Moi, je pensais plutôt au fait qu'il y ait plein de gens qui pourraient se dire « Ah, mais du coup, je vais louer des vêtements tout le temps. Enfin, je vais prendre, changer de vêtements chaque semaine. » Autant que, enfin, parce que t'es pas limité à une fois par mois, tu peux changer tous les jours si tu veux des vêtements, quoi.
Du coup, en fait, il faudrait savoir au bout de combien de temps le vêtement est considéré comme mort. Est-ce que c'est au bout de, je sais pas moi, 6 mois de location, ils jettent le t-shirt ou
ils
c'est
le
quoi
jettent
la durée
pas.
De vie d'un vêtement
Pas quand il est détruit ou quand il s'il y a des trous vraiment.
A priori, ils les jetteraient pas. Donc tout ça, c'est en test encore une fois. Ils les jetteraient pas. Justement, eux-mêmes s'occuperaient de leur recyclage. Et du coup, ils vont refaire des vêtements à partir des vêtements défectueux, quoi, qui seraient considérés comme trop usés.
Ouais, mais du coup, est-ce qu'ils envoient tout en Chine ou
C'est ça.
Ou
est-ce
qu'ils
nous le et en fait, ils ne reconditionnent pas et c'est juste un nouveau, c'est possible aussi.
C'est ça le problème,
On n'en sait rien, mais ce qu'on
mais
sait.
Mais de toute manière, en fait, il faut arrêter de penser qu'une grosse marque comme ça sera un jour écologique, en fait.
Ah ouais.
Rien que ça, enfin, tu vois. Ça sera jamais éco-responsable de faire autant de fringues et d'être aussi gros. Donc, enfin, ça peut que. C'est hypocrite ou non, c'est juste à nous aussi de voir les choses en face et de dire, en fait, c'est une énorme enseigne.
Et on a besoin de moins de fringues, point.
En fait,
ouais, voilà, c'est ça,
tu vois. Moi, je pense que c'est mieux, mais c'est quand même... Ça reste,
ouais, c'est la production qui est problématique. Hein.
Ça reste une énorme marque. Si elle veut suivre commercialement, il faut qu'elle me fasse en masse, quoi.
C'est ça.
En tout cas, c'est un fleuron de la fast fashion à la française qui va pour l'instant correctement. Mais un autre fleuron de la fast fashion française qui vient de mettre la clé sous la porte, c'est Camailleux.
Ouais.
Je sais pas si vous avez suivi cette histoire.
Si.
C'est quoi votre relation à Camailleux? Alice, est-ce que tu achètes des vêtements chez Camailleux?
Non, je n'ai jamais acheté.
Jamais?
Non.
Et toi, Ruby?
Moi, je passais devant parce que j'habitais vers Répu. Donc, quand tu sors à Répu, quand tu vas vers... Enfin, tu sais, c'est genre à la sortie à droite. Je connais juste ça de Camailleux, genre.
Ok. Et toi, Sarah?
Non, mais je sais qu'il y en avait pas mal en... Il y en a pas mal en banlieue. Ça, je sais. Mais...
Et partout en région. Enfin
oui,
partout en France, quoi.
Partout en France. Mais c'était pas ma présence en banlieue. Moi, après, j'ai su cette nouvelle-là sur LinkedIn d'une ancienne employée qui a en fait fait une publication là-dessus. En disant sa tristesse, fait que c'était dommage que ça ferme, etc. Enfin voilà.
Je suis fascinée. Ça veut dire que tu ne lis pas Mademoiselle, car j'étais le premier sur l'info. Ah, je rigole. en tout cas, c'est dans le chat. Camailleux ferme ses portes. Ça faisait des années que c'était en difficulté financière. Du coup, c'est pas vraiment une surprise pour les gens qui suivent un peu l'industrie. Et ce qui est vraiment, vraiment hyper triste, c'est que c'est 2600 emplois.
Ouais, ça, c'est le vrai truc.
Ouais.
Mais en fait, c'est ça aussi avec la fast fashion, c'est que c'est énormément d'emplois.
Ouais.
Donc ça, on peut... Enfin, tu vois, économiquement, c'est un désastre, mais écologiquement, pour ces gens-là...
Parce qu'il y a beaucoup de gens
socialement,
qui...
Socialement, c'est...
Pour,
c'est,
tu vois, pour
c'est...
le taux de chômage, enfin, tout ça, c'est juste colossal, quoi.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sollicitent ce genre d'entreprise parce que ça peut recruter beaucoup de gens. Et donc, réduire, entre guillemets, le chômage. Mais quand ces entreprises sont en difficulté ou quoi que ce soit, après, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens qui sont à la porte. Enfin, c'est... faut aussi y penser, quoi. Et sur le long terme, moi, de toute façon, les marques de fast fashion, je...
Tu cautionnes pas?
Ouais, non, je... Franchement, j'ai...
Où est-ce que tu fais ton shopping, toi?
Bah, moi, je fais sur
Vinted.
Tu fais
tes fringues?
Ah, ouais. Seconde main, ouais.
C'est cool. Et toi, d'ailleurs, Alice?
Un peu partout.
Ok.
Ouais. Je prends des pièces un peu à droite, à gauche.
Aussi bien fast fashion que marque plus premium, voire luxe?
Oui, je reconnais que j'ai quelques robes de fast fashion. Mais je fais toujours hyper attention, par contre, à la provenance et au tissu.
Ok. Pour que ça dure longtemps.
Ouais, j'essaye de pas... Enfin, je prends pas de polyester et tout ce qui est Made in China ou pire, Bangladesh, j'y touche pas.
Polyester, ça peut durer longtemps, hein. Mais c'est pas forcément beau.
Ouais, mais bon, la production, elle est terrible. Mais bon.
Ouais, et les particules et tout.
En soi,
ouais.
Tu peux avoir le même raisonnement sur le coton qui utilise énormément d'eau. Donc,
franchement, oui.
Effectivement, la fringue la plus écolo, c'est celle que vous n'achetez pas et qui n'a même pas besoin d'être produite.
Voilà.
Voilà, effectivement, c'est y a une autre marque comme ça qui est en difficulté en ce moment, mais qui n'a pas encore mis la clé sous la porte, c'est Pinky.
Ah,
Du coup, je vous ai mis le lien dans le chat, mais plein de raisons expliquent pourquoi il y a tant de difficultés pour les marques de mode françaises aujourd'hui. C'est, elles sont... challengé par d'autres acteurs comme H&M, Zara, etc. Mais aussi de nouveaux acteurs d'ultra fast fashion comme Shein, Boo, Pretty Little Thing
qui font
et compagnie.
Très, très mal, hein.
Et en plus, il y a le Covid qui a fait que toutes ces boutiques qui ont beaucoup plus de force de frappe en région, et ben, en fait, les gens se déplaçaient de moins en moins à cause du Covid et du coup, ils commandaient de plus en plus en ligne. Et au déconfinement, elles sont pas retournées chez Camailleux, quoi.
Enfin, non, elles y ont pris goût, bah, je peux comprendre en même temps. Et puis même au niveau des tailles aussi, ces marques-là, elles offrent... des tailles hyper inclusives, tu vois, elles sont hyper inclusives et ça, on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'en fripe, t'as pas forcément du 46.
Ou plus encore.
Ou plus encore, enfin, tu vois.
Et en plus, les gens, il y a plein de personnes minces qui achètent du 46 ou plus encore pour le couper en deux et faire un blazer cropped et une jupe
Après,
mini.
Franchement, moi, je l'ai fait pour ma défense. Je suis allée, genre, visiter des points relais et tout. Enfin, tu vois, t'as le relais qui reçoit 12 tonnes de fringues par jour.
Il y a de la marge.
Il y a de la marge. Les fringues, c'est pas ça qui manque, vraiment
ouais,
pas.
Ouais, franchement, ouais.
Donc, parce que moi, je fais des tutos et je montre aux filles comment reprendre leurs vêtements, justement pour pas aller acheter du neuf et tout. Et je sais qu'on m'a déjà dit, ouais, mais meuf, regarde, là, t'as pris un taille 42 alors que t'es un taille 36, nani. Et en fait, je suis allée au relais, j'ai vu ces 12 000, tu vois, ces 12 tonnes de fringues et ils en reçoivent tous les jours. Donc, je trouve que c'est un peu... Je sais pas, c'est un peu facile de juste dire « Ouais, attends, tu prends tout ce qu'il y a. »
Bah, on n'est pas en manque de fringues hein, dans l'industrie. On n'est pas du tout en manque de fringues. On est même... Il y a un surplus de pas possible et...
Ah ouais.
Et franchement, en termes de vêtements, il y en a pour tout le monde. Donc,
Mais d'ailleurs, ça, je me demandais, même toi, en tant que créatrice, parce que moi, j'y pense, tu vois, que t'as une marque. Je me demandais, tu penses au fait que, genre, tu crées des vêtements?
Bah, en fait, le truc, c'est que moi, déjà, je me base sur de la slow fashion. Je crée pas pour en faire tout un stock. En fait, je crée par commande déjà.
Ça change tout.
Je fonctionne comme ça. Et en fait, tout simplement, la raison est que bah, je veux pas non plus...
faire ce que tu veux, quoi.
Enfin, voilà, quoi. J'ai envie qu'il y a aussi ce côté de rareté, c'est-à-dire qu'il y a des éditions limitées. Voilà, ce modèle-là peut être fabriqué à X nombre de fois en telle taille et après, bah, c'est fini basta. Et en fait, c'est ça qui fait que bah, la slow fashion s'applique. Et après, moi, j'utilise vraiment des matières bio et qui sont confectionnées en Europe. Et mes ateliers se trouvent à Paris. Donc voilà, c'est pour ça que je fais très attention à tous ces petits détails-là. Donc voilà.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.